Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu spécial. Nous avons tous été envoyés pour témoigner, pour parler de Jésus, pour prier pour les malades, c'est certain. Mais nous n'avons pas tous un ministère. Je voudrais vous parler de ce que c'est. Comment se manifeste le ministère dans un homme? Prions. Je te demande, Père, de me donner de la clarté dans mes propos, afin que mes frères et sœurs comprennent, qu'ils ne se méprennent pas sur ce que tu veux à leur sujet. Père, permets que mes frères et sœurs soient renouvelés dans leur intelligence pour comprendre ce que je vais leur dire. Merci Jésus. Amen. Vous voyez, ça fait des années maintenant, depuis 1968, que je prie pour les malades, que je prêche l'évangile, et il y a eu des milliers de conversions, des milliers de guérisons, il y a même eu 3 résurrections de morts, et tout ça c'est à la gloire de Dieu, mais il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Je voudrais vous parler de cela aujourd'hui. Je ne veux pas être négatif, je veux juste être clair pour que personne d'entre vous ne se trompe. Il est dit dans la Bible clairement que c'est Dieu qui donne. On peut voir dans Éphésiens 4, 11, Dieu a donné les uns comme apôtres ou émissaires, les autres comme prophètes, d'autres encore comme proclamateurs de la bonne nouvelle, c'est-à-dire des évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. Alors, nous sommes tous appelés à proclamer la bonne nouvelle, mais nous ne sommes pas tous ministres. Il y a une différence. On va lire dans 2 Corinthiens pour voir qu'il y a des gens qui sont établis pour cela, et que c'est Dieu qui établit. 1 Corinthiens 12, 28. Il est dit, c'est ainsi que Dieu a établi dans la communauté messianique, c'est-à-dire dans l'Église de Jésus-Christ, premièrement les émissaires, c'est-à-dire les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, puis ceux qui opèrent des miracles, viennent ensuite ceux qui ont les dons de guérison, ceux qui ont des compétences pour aider, ceux qui savent gérer les affaires, ceux qui parlent en diverses langues, etc., etc. Donc c'est Dieu qui établit. On ne s'auto-proclame pas. Grandir dans les ministères de Dieu, sachant que c'est la décision de Dieu concernant quel ministère est le nôtre, alors cela nous pousse à comprendre que c'est notre responsabilité de grandir dans le ministère que Dieu nous a confié, de développer ce ministère. Dieu nous trace des limites lorsqu'il place son appel sur notre vie. Il trace des limites autour de nous et exige qu'on se développe dans ces limites. Philippe, par exemple. Philippe était appelé à être évangéliste, mais il a commencé comme diacre. Avant d'être diacre, il n'avait pas de ministère. Il pouvait quand même témoigner de Jésus-Christ, prier pour les malades, mais il n'avait pas de ministère. C'est Dieu qui donne le ministère et c'est Dieu qui établit dans le ministère. Avant d'être diacre, donc, il n'avait pas de ministère, il était simplement un chrétien fidèle, un témoin. Enfin, lorsqu'on a demandé à l'Église de choisir des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse parmi eux, alors ils ont identifié Philippe, qu'ils ont établi comme l'un des 7 diacres. Étant devenu un diacre établi, son ministère a grandi jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme Philippe l'évangéliste. Vous allez lire ça dans Actes chapitre 21, verset 8. Vous voyez, il a commencé comme simple chrétien, et puis ensuite il a été établi comme diacre par l'Église, et puis ensuite il est devenu un ministre, un évangéliste. Paul, il a commencé comme rien. Il dit qu'il était inconnu de visage aux églises de Judée. Vous trouvez ça dans Galates, chapitre 1, verset 22. Mais il était fidèle. Quand il avait l'occasion, il témoignait avec courage, et même des fois au péril de sa vie. On trouve ça dans Actes 22, 23, 29, 30. Tout le monde ne le reconnaissait pas. Il a été envoyé dans sa ville natale, à Tarse, où il a demeuré environ 10 ans, et tout le monde l'a presque oublié. Mais Dieu est capable de placer dans les cœurs de ses ministres établis des personnes pour l'aider. Barnabas était déjà un ministre établi, et il était connu partout dans l'église de Jérusalem. On peut lire ça dans Actes 4, 36. Il était connu des ministères clés de cette époque, de Pierre, Jean et les autres apôtres. Et c'est Barnabas qui a conduit Paul et qui a introduit Paul aux apôtres. Vous trouverez ça dans Actes 9, 27. C'est la fidélité qui est la clé du développement. Je voudrais ajouter un point ici, pour ceux qui débutent dans le ministère. Soyez fidèles et Dieu va vous placer auprès de personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre établissement du ministère. Et à ceux qui sont établis et bien connus, ceux qui sont déjà bien connus, établis, tout ça, ils vont pouvoir vous aider si vous êtes fidèles. Alors, il y a deux choses, vous pourrez être un obstacle, ou vous pourrez être, au travers de vos insécurités, de vos peurs et tout ça, ou vous pourrez être une bénédiction à travers votre amour pour les gens. Alors, soyez une bénédiction et pas une malédiction. Soyez quelqu'un qui aide et non pas quelqu'un qui arrête le progrès. Soyez celui qui encourage et non pas celui qui décourage. Soyez un frère, pas un persécuteur. Soyez un ami et non pas un ennemi. Il y a des différences qui sont simplement dues à la culture ou des différences qui sont dues à l'âge. Les vieux pasteurs ont des fois de la peine à reconnaître qu'un jeune a été appelé parce que, étant jeune, il est un peu foufou, ou il est, enfin voilà, une différence de génération, ce qui fait que le vieux va se méfier. Ne soyez pas des persécuteurs des jeunes qui commencent. Aidez-les. Nous allons tous rendre compte pour notre vie et de l'argent qu'on reçoit, du ministère qu'on tient. On va rendre compte aussi de la popularité qui résulte de ce ministère. Paul, lui, il était fidèle comme quand il était rien, il était fidèle. Et Dieu a placé Barnabas dans son cœur quand Barnabas a été envoyé à Antioche. Et il s'est souvenu de Paul, selon la prophétie qui avait été prononcée par Ananias, qu'il allait porter le nom de Jésus aux païens, aux rois et aux juifs. Et Paul est entré dans la première phase de son ministère, pas en tant qu'un apôtre, mais comme docteur. Vous verrez ça dans Actes 13, 2. Donc, on constate qu'en dépit de quel ministère ou ministre auquel Dieu nous appelle, nous devons grandir dedans étape par étape. Notre part est de répondre à l'appel et de le développer. Paul est parti de rien, et puis il a commencé par enseigner, et puis voilà. C'est important de comprendre que nous pouvons nous développer dans l'onction du ministère. On est oint pour une chose. Les hommes étaient oints pour être rois. Et il y a des hommes qui sont oints pour être ministres de Dieu. Il y en a qui ne le sont pas, Ils sont loin, mais pas pour être ministre, pour autre chose. L'onction de ministère, je n'ai pas tellement ce mot onction parce qu'il est mal compris dans les églises, mais je ne peux pas employer un mot qui n'est pas biblique, c'est simplement une question de compréhension. Mais l'onction de ministère, c'est l'onction qui est sur nous, qui sommes ministres. Bien qu'on puisse être appelé à un ministère particulier, on ne peut pas recevoir l'onction sur nous pour entrer et fonctionner dans ce ministère jusqu'au moment convenu par Dieu. Je prends l'exemple, Jésus. Jésus n'a pas reçu l'onction sur lui jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Luc 3, 21, 23. Paul, ben lui, il n'a pas reçu l'onction d'apôtre au moment où il a été sauvé. Bien qu'il ait un appel pour devenir apôtre dans sa vie, on trouve ça dans Actes 9, 15, il n'est pas devenu apôtre du jour au lendemain comme ça. Paul a été appelé dans le sein de sa mère, mais il était loin pour être apôtre plus tard, à Antioche. Vous lirez, si cela vous intéresse, Galates 1, 15, 16, Actes des apôtres 13, 1 à 3. Alors, les historiens nous disent que Paul avait au moins 42 ans lorsqu'il était loin à Antioche. On peut voir ça d'après le fait que Paul était un membre du Sanhédrin et qu'étant membre, il lui était permis de voter. On voit ça dans Actes 23, 10. Dans Actes 7, 58, Paul était appelé un jeune homme. Et c'était toujours autour de l'année 33 après Jésus-Christ, là, un jeune homme. L'âge minimal pour être membre du Sanhédrin, c'est 30 ans. Vous trouvez ça dans Nombre 4, 3, verset 23, verset 30, verset 35, verset 39, verset 43, verset 47. Alors, il était extrêmement important qu'on comprenne que l'appel dans le ministère et l'onction pour ce ministère viennent à des moments différents. Nous devons distinguer l'appel d'une personne et l'onction qui vient sur cette personne. C'est nécessaire de distinguer un appel aussi d'un fardeau. Il y a des gens qui ont des fardeaux pour les âmes et ils vont distribuer des tracts, témoigner à gauche, à droite, partout, prier pour les malades. Ils ont un fardeau pour les âmes, c'est très bien. Un fardeau vient d'une vision, qu'il y a un besoin, tandis que l'appel vient de la volonté de Dieu et c'est Dieu qui donne l'appel. Un appel à un fardeau, c'est évident. Mais le fardeau des besoins n'a pas nécessairement besoin d'un appel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un fardeau pour les âmes sans avoir été appelé par Dieu à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, enseignant. Je vais vous dire une phrase un peu bébête, mais tous les chats sont des animaux, mais tous les animaux ne sont pas des chats. Tous les appels ont des fardeaux, mais tous les fardeaux n'ont pas forcément l'appel, c'est clair. Il ne faut pas se prendre pour prophète ou pour apôtre comme ça, là. Non, c'est Dieu qui fait ça. Il est bon qu'une personne ait un fardeau et pour entrer en plein temps dans le ministère, on a besoin de plus qu'un fardeau. Il nous faut l'appel de Dieu et être établi par Dieu. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, 11, c'est Dieu qui appelle, dans 1 Corinthiens 12, 28, et c'est Dieu qui établit. Alors plusieurs personnes entrent dans le ministère en suivant, parce qu'ils voient les besoins, et ils ont un fardeau, mais ils ne sont pas établis par Dieu. Et ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas une onction de Dieu pour opérer dans son ministère. C'est dangereux de sortir de la volonté de Dieu. Il est dangereux de fonctionner sans cette onction de Dieu, sans cet appel et cet établissement fait par Dieu. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quelqu'un qui se lance dans un ministère sans y avoir été appelé d'une façon claire et sans avoir été établi par Dieu d'une façon claire, ça devient une puissance et une force humaine. C'est la chair religieuse qui se manifeste, la chair. D'où la multitude de problèmes dans les églises dénominationnelles. Il y a peu de gens qui ont véritablement été appelés et qui ont absolument un ministère, vraiment, qui ont été établis par Dieu. Il y en a peu. Il y en a beaucoup qui sont des autoproclamés, ou ils sont copains avec un pasteur qui les a mis là, ou ils ont été à l'école biblique et puis ils pensent que ça suffit. Ils ont été formés par un pasteur, ils pensent... Non, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas autrement. Bon, alors après avoir discerné entre le fardeau et un appel, nous devons aussi discerner les temps et les saisons de Dieu. Si vous avez un appel particulier dans un ministère, ne commencez pas le travail jusqu'à ce que l'onction soit sur vous. Avant que l'onction vienne, entraînez-vous, développez et apprêtez-vous pour que l'onction ministérielle vienne sur vous. Je me rappelle d'un frère qui était tout jeune dans la foi et qui disait Jésus dit que nous pouvons ressusciter les morts. Alors il s'exerçait, quand il trouvait un oiseau mort, il priait pour que l'oiseau ressuscite, il s'exerçait. Regardez le cas d'Élisée. Élisée était appelé pour être prophète, on voit ça dans 1 Roi 19, mais il ne pouvait pas exercer et il n'a pas exercé en tant que prophète jusqu'à ce que le manteau soit venu sur lui. Un symbole, ce manteau c'était le symbole de cette onction de ministère sur lui, le manteau d'Élie. Des fois, on est prêt à entrer dans l'exercice de fonction de notre appel, mais ce n'est pas encore l'heure. Quelquefois aussi, c'est l'heure de commencer, mais on n'est pas vraiment prêt. En fait, souvent, c'est qu'on n'est pas prêt. Il y a un temps de préparation exigé pour nous équiper, pour que l'onction du ministère vienne sur nous. Il y a un temps de préparation. Élisée s'est préparé en servant Élie pendant 10 ans environ. 10 ans. Et sa dernière épreuve était de veiller sur Élie. On trouve ça dans 2 Rois 2, 19 et 10. Alors, l'onction qui est sur nous, elle est coûteuse. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Kuhlmann, mais Catherine Kuhlmann a dit que ça lui a coûté toute sa vie. Ça va te coûter toute ta vie. Dieu exige que tu consacres ton temps, tes talents, ton énergie, ta santé, ton argent, tout à son appel. Il exige que vous démontriez cette consécration d'une manière consistante en saison et hors de la saison, chaque année, chaque moment, tout le temps. Cette position de consécration doit être maintenue à travers des épreuves, à travers les tentations, pendant que tu es en train de te noyer, pendant que tu es en train de nager, pour la vie ou pour la mort, tout le temps. Ah. quand Dieu est finalement satisfait et que tu es prêt à donner toute ta vie pour faire sa volonté et remplir son appel, l'onction pour le ministère viendra sur toi. Je dis bien pour le ministère. Je parle ici des cinq ministères. Lorsque vous avez l'onction sur vous, vous, pour exercer le ministère dans lequel vous êtes appelé, vous pouvez, comme Jésus, finir l'œuvre de 33 ans en trois courtes années. Les signes, les prodiges de ton ministère t'établiront. En 3 ans de sa manifestation, tout Israël savait que Jésus de Nazareth était parmi eux. En 3 ans, tout Israël a été ébranlé par l'impact de la vie et par le ministère de Jésus. En 3 ans. Mais les 30 ans de préparation. Ce que Jésus a fait en 3 ans valait vraiment la préparation de 30 ans. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en attendant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Allez prêcher la bonne nouvelle, allez dire aux gens. Cela, c'est l'exercice que vous faites avant d'être établi par Dieu. Alors, dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux à faire, mais il y a peu de personnes qui ont véritablement le sceau de Dieu pour le faire, qui ont vraiment reçu cet appel de Dieu. Beaucoup s'imaginent l'avoir reçu parce qu'ils ont eu des émotions à un moment donné. Et il y a une préparation. Il y a peu de gens qui sont prêts à payer le prix. Si seulement un seul homme était prêt à payer le prix que Jésus a payé, que Paul a payé, qu'Osborne a payé, que Raphaël a payé, que Catherine Kuhlmann a payé. L'onction de cette personne peut ébranler le monde. Voilà, c'est spécial comme message, mais je pense qu'il était nécessaire de le dire parce que on voit tellement maintenant de gens un peu bizarres qui se manifestent et qui s'autoproclament ceci ou cela. Vous pouvez prophétiser, manifester le don de prophète, de prophétie, ça fait pas de vous un prophète. Vous pouvez imposer les mains aux malades, ça fait pas de vous quelqu'un qui a un don de guérison. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu ou témoigner, ce qui revient au même, sans être un apôtre ou un pasteur. Vous pouvez faire toutes ces choses-là. Mais quand Dieu voit votre fidélité dans votre action, de simples chrétiens, comme Paul, qui était un simple chrétien, et qui a attendu longtemps avant d'être établi, quand Dieu verra votre fidélité, il vous établira. Il mettra auprès de vous des gens qui vont vous aider, spirituellement, matériellement. Vous voyez ? Je prie pour vous. Je prie que cette année, des personnes... Pour 2019, je prie que des personnes sérieuses se lèvent et reçoivent de Dieu véritablement cet appel et l'établissement dans le ministère et qu'on voit de moins en moins de rigolos, de prétentieux et d'orgueilleux et de psychopathes se manifester dans les églises. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et je te remercie d'avance. Je crois que tu vas le faire. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse. Au revoir.